Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Dans la deuxième partie de la Grande Table aujourd'hui, comment affronter les limites plutôt que de les effacer dans la philosophie devenue folle chez Grasset. Jean-François Bronstein analyse la contradiction des théoriciens du genre, des défenseurs des droits de l'animal et des partisans de l'euthanasie. Ce faisant, il réaffirme les frontières qui nous constituent en tant qu'hommes. Le philosophe nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, aux limites de l'absurde avec Christiane Lupa, figure du théâtre européen. Le metteur en scène polonais nous guide dans le labyrinthe kafkaïen, passionné de littérature russe, allemande et autrichienne. Après Musil, Rilke, Dostoïevski, Thomas Bernhard ou encore Werner Schwab, Lupa adapte Le Procès dans le cadre du Festival d'automne. Sa dernière création est à voir jusqu'au 30 septembre au Théâtre de l'Odéon, puis au Théâtre du Nord à Lille les 16 novembre et 17.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Publié en 1925, traduit pour la première fois en France en 1933, adapté au cinéma par Orson Welles, Le Procès du Tchèque Franz Kafka met en scène l'absurdité d'un monde où un homme, Joseph K., peut être arrêté un matin, soumis à un interrogatoire, accusé sans jamais connaître les charges qui pèsent contre lui, dans l'attente d'un procès dont on lui reproche de négliger la préparation, mais auquel il n'est jamais convoqué. Ici, avec Lupa, l'écrivain devient le double de son personnage, le sujet de son propre cauchemar.
Mówmy przez czas jakiś o nim on, taka gra.
On mówi, że nie zna prawa, a twierdzi, że jest niewinny.
A nie wolałby pan zostać?
Był spokój, bezruch, wierzyliśmy w nasze urojenia, nazywaliśmy to rzeczywistością, nikt nam nie przeszkadzał.
On już tu jest, już zabieraj.
Nie przeszkadzał.
On już tu jest. Cisza! Na miejsca!
Komisja śledcza?
Tak, to była komisja śledcza.
Z powodu pana?
Tak.
Nie. Pan wdalił się do tego, co myślę w samotności, to jest przestępstwo.
No ale przecież pani nie zgwałcił.
Wyżyj się na mnie i spać.
Nie mogę na tobie, bo ciebie nie ma. Odstawiliście teraz, nie wiem, przede mną tutaj jakiś nędzny teatrzyk, udawaliście przede mną jakieś dwie partie różniące się poglądami. Jesteś mną, jesteś, bo ja jestem. Jedna klaskała, jedna się gapi po prostu. Po co, żeby mnie sprowokować?
Chodź pewnie o to, żeby nie rozdał się nikt, kto pamięta, jak wyglądała prawda.
Więc zaczynają zmieniać poszczególne słowa, zdania, całe paragrafy.
Adwokacie mój.
Zostało bezpowrotnie stracone, coś nie, nie. Trzeba to wszystko spalić.
Ale ty jesteś słaby.
Pan nie jest lepszym człowiekiem ode mnie! Pan też jest oskarżony!
Pan by chciał tu coś zmienić.
Bonjour, Christiane Lupa.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Michel Lisowski. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Merci.
Kafka, en dernier recours, à 75 ans, c'est une première. La première fois que vous adaptez l'une des œuvres du romancier et écrivain tchèque, Franz Kafka. Vous avez dit avoir eu enfin le courage de l'adapter. Pourquoi en fallait-il tant du courage?
Kafka, c'était pour moi un des écrivains qui m'ont initié, moi, ma vie, mon contact avec la littérature. C'était quelque chose de vécu de très profond, car Kafka est quelqu'un d'agressif, d'invasif, il s'introduit de force, il viole son lecteur. Et en même temps, j'avais toujours ce sentiment qu'il mène un jeu pas tout à fait honnête, même si ce jeu est très vrai. Et jusque-là, je n'ai pas osé m'attaquer à Kafka, je me disais à moi-même que je n'avais pas l'espoir. Or, j'aime bien qu'il y ait de l'espoir dans ce que je fais. Et je me souviens, je crois que c'était dans les années 90, en Italie, il y a eu un festival de Kafka et il fallait préparer. J'y étais invité, Il fallait préparer à la condition de préparer quelque chose de Kafka. Et j'ai fait alors mon premier Thomas Bernhard pour le festival en disant que c'est Thomas Bernhard qui est le Kafka de la deuxième moitié du XXe siècle. Et même s'il est aussi noir et lugubre, malgré tout, il y a une énergie positive chez Bernhard. Au moins cette énergie de sa négation, de son humour, si on peut le dire. Et en fait, son absence d'accord est complètement imprégnée de cette agression, mais très vivante. Kafka aime la mort, c'est du moins ce que je pensais alors. Mais malgré tout ça, je disais toujours à mes élèves de se mesurer à Kafka, de voir cela comme un phénomène de narration. Et je dirais que ce que vous venez de dire, ce côté absurde qui réside en lui, le monde qui est absurde, je dirais qu'il y a une itinérance à travers le monde. Il traverse les territoires et les époques, et finalement, cette absurdité est arrivée dans notre pays avec cette équipe du parti au pouvoir qui, de manière vraiment semblable à ce pouvoir usurpé et insaisissable, invisible chez Kafka, ils ont pris le pouvoir en Pologne. Et c'est la même chose qui commence. La même chose que dans le procès de Kafka, je dirais même un peu plus.
Première fois donc que vous vous attaquez à une œuvre de Franz Kafka. Est-ce qu'en entrant dans ce texte, dans ce procès, vous avez soulevé plus de contradictions que vous n'en aviez vu encore auparavant? Ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un peu percé le mystère kafkaïen?
Il me semble que ce mystère kafkaïen est vraiment très profond. Nous avons travaillé très longtemps sur ce texte, et plus nous avancions, plus ce mystère, on arrivait à l'appréhender, et on avait tout le temps l'impression que, comme un poisson de profondeur, le mystère de fond s'éloigne. Nous l'avons abordé à deux reprises, car justement Kafka est arrivé au théâtre en Pologne, et la scène sur laquelle nous préparions le procès à Wrocław a été reprise par un nouveau directeur dont la politique culturelle était différente, conforme à ce que voulaient les autorités. Et à ce moment-là, nous avons interrompu notre travail. Et ce n'est qu'une année plus tard, à Varsovie, que nous avons eu la possibilité de le reprendre. Mais à ce moment-là, la réalité avait complètement changé. Ils ont transcendé Kafka. Et compte tenu de cette perspective de réalité dans laquelle nous vivions, que nous touchions, Kafka nous a montré de nouveaux mystères. C'est un phénomène très intéressant, car Kafka n'a jamais terminé le procès. Après sa crise amoureuse avec Felicia Bauer, vous savez qu'il y a eu une sorte de jugement qui a vraiment blessé Kafka, et il a commencé à écrire le procès en quelque sorte par réaction à ses accusations contre lui, assez irrationnelles. Il a donc écrit le début et la fin du roman, mais comme cela lui arrivait souvent, il n'a pas su rédiger le milieu, le centre du roman. Il ne savait pas. Il s'est enfoncé dans cette écriture, il l'a abandonné pour quelque temps, et puis juste avant sa mort, il a demandé à Max Brod de brûler ce qui restait. Heureusement, Max Brod ne l'a pas fait. Moi, ce qui me fascine toujours, ce sont les taches blanches. Ce qui m'a fasciné là, c'est la question pourquoi Kafka n'a pas rédigé le milieu du roman. Et cela nous a donné la possibilité, au deuxième acte, d'y ajouter des choses, je dirais, privées à la place de ces taches blanches. Donc d'abord, on a Felicia Bauer et Max Brod qui interviennent. Nous sommes revenus en quelque sorte au départ, à la genèse du roman. Et puis plus tard, les comédiens ont possédé un autre saut narratif. Ils se sont mis à parler d'eux-mêmes, de la manière dont eux, ils vivent la réalité d'aujourd'hui dans notre pays, dans un pays où on a de plus en plus de mal à respirer, on a de plus en plus mal à être libre, autonome, et avoir des projets d'avenir en tant qu'homme. C'était une aventure, une expérience fascinante. Mais encore une chose que je dois dire,
do improwizacji, która jakby w celu
lorsque nous sommes mis à improviser pour trouver plus de matière dans notre récit, on a passé toute une nuit à improviser. Les comédiens dormaient dans la salle de répétition, la caméra était en place, moi je n'étais pas là, ils étaient seuls. Donc ils avaient vraiment la possibilité de prendre l'identité de leur personnage. Et il était prévu qu'un des comédiens arriverait plus tard. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit, justement, je viens de passer, je viens de voir un homme brûlé du côté du Palais de la Culture, car notre salle de répétition était au Palais de la Culture, à 50 mètres de l'événement. Et vous voyez ainsi comment les deux absurdités se rejoignent.
Comment ces deux mondes se sont retrouvés. Nous sommes aujourd'hui les contemporains de Franz Kafka. Aujourd'hui, en 2018, notre monde est en train de dépasser à son tour les limites de l'absurde. C'est ce que vous nous montrez sur scène, Christiane Lupa. Pour revenir juste encore à ce texte, au procès de Kafka, pour comprendre les mystères et la noirceur de ce texte et de son auteur, vous êtes donc entré dans la vie de Franz Kafka, vous l'évoquez, et vous mettez aujourd'hui en scène aussi Felicia, la fiancée, et Max Brod, son ami fidèle. Vous dédoublez ce personnage, Joseph K., avec Franz Kafka. C'est une scène où la schizophrénie presque, le dédoublement du moi prend toute sa place avec vous. L'homme et sa conscience, l'homme et ses pulsions, la fiction, le théâtre, c'est vraiment le lieu de ce dédoublement possible pour vous, Christiane Lupa?
Mais il en est ainsi. Bien entendu, tout comme dans les autres romans, le héros du procès, c'est lui-même. Et il n'est pas en mesure d'écrire quelque chose sur quelqu'un d'autre que lui-même. Je dirais qu'il a tellement de mal à vivre avec lui-même qu'alors ce moi, qui est pour lui quelque chose d'impossible à conduire, une sorte de monstre, ce quelque chose qu'il n'arrive pas à diriger, cette chose qu'il n'arrive pas à mettre ni dans ses rêves, rêve de travail, rêve de vie. Donc ce deuxième moi qui est en lui-même et qu'il essaye quand même de diriger est complètement incompréhensible pour lui-même. C'est quelque chose qui lui résiste. par son existence même. Et cela est apparent dans tous les romans de Kafka, qu'il y a une faille, une opposition entre le héros et le narrateur. Le narrateur, donc Kafka lui-même. Le narrateur est cruel envers son héros. On pourrait dire qu'il le voit de manière très implacable. En fait, on a l'impression qu'avec un plaisir cruel, il l'anéantit. D'abord, il le compromet à plusieurs reprises. Et finalement, il le tue. On peut l'impression que ce ne sont pas les assassins qui tuent Joseph, mais que c'est l'auteur qui l'assassine. Il tue son alter ego. Et le lecteur ne peut pas l'accepter. Et à chaque fois que je lisais Kafka, j'avais en moi ce mélange de résistance et d'admiration, car Kafka est aussi cruel envers son lecteur, comme s'il se vengeait de toute sa vie qu'il considérait ratée sur le lecteur. Et c'est pourquoi c'est tellement puissant. C'est pourquoi cela nous entraîne, nous place dans une chambre fermée où nous sommes torturés.
Jamais vous ne m'enlèverez ma dignité et mon imagination parce que sans moi, vous n'existeriez pas, dit Joseph K. à ses juges. Comment vous l'interprétez, cette phrase ?
Je dirais que c'est une pensée qui ne vient pas de ce Kafka, c'est quelque chose qui a été écrit par un comédien qui joue son rôle. C'est une sorte de voix double à l'intérieur du monologue kafkaïen qu'il prononce à ce moment-là. Et lorsqu'il est arrivé avec ce texte, je sentis que c'était quelque chose de très personnel, que cela résultait de son envoûtement par ce travail qu'on commençait à peine, par ce mystère de la matière à laquelle nous étions confrontés, lui aussi. Et en même temps, c'était quelque chose de très créatif. Les dessins qui sont montrés viennent de ce comédien, dans le livre, le couple assis sur un canapé. Il dessinait tout le temps pendant son travail. Je dirais que la phrase « tu ne me priveras jamais de ma dignité d'artiste en fait », même si de manière semblable à Kafka, Joseph K. travaille à la banque, mais en même temps, il est un artiste. Il est en quelque sorte le récitant de sa vie. Il écrit son livre par son drame, par son martyr. Et cela concerne justement ce conflit qui va croissant entre le pouvoir et les artistes, tout comme en Pologne aujourd'hui. Et pas seulement en Pologne, bien entendu. Le pouvoir, les autorités qui ont leurs propres besoins et se disent alors qu'il faut priver l'artiste de sa liberté. C'est une sorte de crime contre la culture. Mais il faut être très franc. Ce sommes nous, les artistes, qui ressentons cette privation de liberté de manière la plus forte. Mais cela ne concerne pas seulement les artistes, cela concerne tout citoyen.
Il faut raconter, Christian Loupa, que vous avez une première fois tenté de monter cette pièce en 2016. Le directeur du théâtre pour lequel vous travaillez, le théâtre Polski, est limogé. Il va être remplacé par un autre directeur, Cezary Morawski, comédien de soap opéra dont la nomination va inquiéter les milieux culturels. Le dramaturge Piotr Kruzinski du Novi Theater s'exprimait à ce sujet.
Il n'a pas d'expérience pour être le directeur artistique de théâtre de Wrocław. Il pouvait peut-être être le directeur d'un théâtre boulevard, mais il n'est pas qualifié pour ça. C'est vraiment le choix de vengeance pour tuer le théâtre, pour tuer cet ensemble. Bien sûr, on est inquiet, mais il faut être solidaire parce que probablement c'est le début de la fin, donc c'est le début de liquidation de la culture indépendante de point de vue du gouvernement de la Pologne.
Comme vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez là-bas, vous allez changer de lieu et dans un deuxième temps recommencer à monter ce procès de Kafka dans des conditions un tout petit peu plus sereines. Vous avez aussi pris la tête de la contestation contre cette nouvelle direction issue des milieux conservateurs en Pologne. Aujourd'hui, quelle est pour vous, et pour reprendre l'une des métaphores du procès de Kafka, la tumeur, où sont les métastases? Comment la société polonaise s'est laissée contaminé en partie par le rejet de l'autre.
C'est quelque chose que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Nous ne savons pas pourquoi cette réalité se développe. Et il y a toujours un fond, il y a toujours des électeurs, il y a toujours des gens trompés, bien entendu, mais qui continuent à avancer malgré ces mensonges vraiment incroyables. Un grand mensonge, et c'est une sorte de cancer spirituel. Au fond, le mensonge est souvent plus commode que la vérité. Et beaucoup de gens préfèrent se cacher dans le mensonge. Et les populistes se basent là-dessus.
Oni bazują na tym, że jakby powiedzieć, biedny nie do końca dojrzały.
Comment bien le dire? Quelqu'un qui est pauvre spirituellement, qui n'est pas mature,
zawsze będzie wolał przyczynę,
préférera toujours voir les raisons de son échec dans un ennemi, quelqu'un qui le prive de son bonheur, et même sans le savoir explicitement, cet homme est prêt à transformer toute sa vie en une sorte de haine. Considérant lui-même comme une sorte de monade de haine. Et c'est ce qui se passe maintenant. Nous avions l'espoir que cela se terminerait plus rapidement, qu'il y aurait trop de compromissions. De la même manière que, autrefois, l'Europe avait l'espoir qu'Hitler, ça durerait quelques mois. Mais les Allemands allaient bien voir que c'est une sorte de marionnette, de comédien, un homme de peu de valeur. Pas seulement fou, mais justement petit. Nous aussi, nous avons notre petit, un homme qui sait pourtant jouer sur le ressentiment de l'homme. Et je dirais que ce combat entre ceux qui veulent en quelque sorte libérer, guérir ce cancer spirituel, tout notre pays, la Pologne, le combat dure toujours, mais cette lutte devient de plus en plus absurde. Nous avons de plus en plus l'impression que nous luttons contre un monstre invisible. Nous voyons des gens sur les écrans, dans les journaux. C'est quelque chose de factice. Derrière, il doit y avoir un espace de plus en plus grand, un espace psychique, je parle de toute la société, qui est complètement incompréhensible pour quelqu'un de rationnel. Mais comme je viens de le dire, lorsqu'on arrive dans une période d'obscurcissement, et ce sont des vagues qui arrivent, et dans le monde entier, et justement nous sommes sous la vague.
C'est là que le théâtre entre en scène comme un acte de résistance aussi, que le théâtre se montre comme un terrain qui n'est pas isolé, un lieu de revalorisation radicale, comme le disait votre mentor, le metteur en scène Tadeusz Kantor, Christian Lupa. Avilir l'homme, faire en sorte qu'il perde la raison, ce sont des mots du procès de Franz Kafka que vous mettez actuellement en scène au théâtre de l'Odéon, cette fable sur la corruption du pouvoir et sur la folie. Le doute va très vite s'insinuer dans l'esprit de l'entourage de Joseph K, puis dans le sien et donc dans celui du spectateur. Un innocent ne se comporte pas comme ça, lui dit d'ailleurs sa tante. Si le monstre du pouvoir, et vous venez de l'évoquer, n'a ni visage, ni odeur, qu'il est insidieux, qu'il est pernicieux, comment le rendre visible pour le metteur en scène? C'est là que réside toute la difficulté de ce texte et de votre travail. Un personnage en proie au doute et à la folie, c'est nos conflits intérieurs, c'est nos théâtres intérieurs que vous avez cherché à orchestrer avec cette pièce.
Oui.
Voyez-vous, ça c'est un truc utilisé par l'autre partie. Du moment où il y a quelqu'un qui s'oppose, qui tend vers la liberté, ou même montre une aspiration artistique, courant chez les artistes, Kafka est un artiste, nous sommes des artistes. Si nous mettons cet homme en accusation, sans qu'il sache pourquoi, il y a toujours un moment où cette personne, je ne dirais pas qu'il va céder, mais il va être blessé. Une sorte de maladie va lui être inculquée. On peut dire, il n'y a pas d'homme innocent. Chacun porte sa culpabilité. Et Kafka dit, comment peut-on voir quelqu'un de coupable? C'est une question très profonde, très forte. Mais on peut l'inverser. Comment un homme qui vit dans un monde empoisonné peut rester innocent? Kafka a ressenti de manière très profonde sa confrontation avec Felicia et cette accusation qui a complètement ruiné sa vie. Mais en même temps, il a en lui ce sentiment de culpabilité de manière très profonde. Et là réside un mystère très profond. À aucun moment, l'accusation n'est pas formulée. On ne sait pas de quoi Franz Kafka est accusé. Et ça, c'est une arme terrible. Tu es accusé de tout. Et tu sais très bien pourquoi tu es accusé. Tu sais ce que tu as fait. Et nous avons un sentiment très profond, très étrange en même temps. Que cette faute qui déborde sur toutes les pages du roman
a en soi un caractère
a aussi un caractère érotique sexuel.
Érotisation décor qu'on peut retrouver sur la scène du Théâtre de l'Odéon aussi. Avec vous, Christiane Loupa, merci beaucoup d'être passée autour de cette grande table. Merci à votre voix française, votre traducteur-interprète Michel Lisowski. On vous retrouvera ce soir avec vos invités, avec des textes d'auteurs qui vous sont chers sur la scène du Théâtre de l'Odéon. Scènes imaginaires, c'est votre carte blanche en public avec France Culture. Rendez-vous à 20h ce soir, c'est en public, donc pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre et venir vous écouter. Merci beaucoup à vous.
Au revoir, à théâtre.